allait-il se vaincre si aisément ? Ah ! S'écria-t-il quand Martine les appela. J'ai une faim ! Tu vas voir si je me refais des muscles ! Gaiement, elle était venue lui prendre le bras. C'est ça, maître, il faut être joyeuse et fort. Mais la nuit, dans sa chambre, l'agonie recommença. À l'idée de la perdre, il avait dû enfoncer sa face au fond de l'oreiller pour étouffer ses cris. Des images s'étaient précisées. Il l'avait vue au bras d'un autre, faisant à un autre le don de son corps vierge. Et une jalousie atroce le torturait. Jamais il ne trouverait l'héroïsme de consentir à un pareil sacrifice. Toutes sortes de plans se heurtaient dans sa pauvre tête en feu. L'écarter du mariage, la garder près de lui, sans qu'elle soupçonnât jamais sa passion. S'en aller avec elle, voyager de ville en ville, occuper leurs deux cerveaux d'études sans fin, pour conserver leur camaraderie de maître à élève. Ou même, s'il le fallait, l'envoyer à son frère dont elle serait la garde malade. La perdre plutôt que de la livrer à un mari. Et à chacune de ces solutions, il sentait son cœur se déchirer et crier d'angoisse dans son impérieux besoin de la posséder tout entière. Il ne se contentait plus de sa présence. Il la voulait à lui, pour lui, en lui. Telle qu'elle se dressait rayonnante sur l'obscurité de la chambre, avec sa nudité pure, vêtue du seul flot déroulé de ses cheveux. Ses bras étreignaient le vide. Il sauta du lit, chancelant ainsi qu'un homme pris de boisson. Et ce fut seulement dans le grand calme noir de la salle, les pieds nus sur le parquet, qu'il se réveilla de cette folie brusque. Où allait-il donc, grand Dieu ? Frapper à la porte de cet enfant endormi ? L'enfoncer peut-être d'un coup d'épaule ? Le petit souffle pur qu'il crut entendre, au milieu du profond silence, le frappa au visage, le renversa comme un vent sacré. Et il revint s'abattre sur son lit, dans une crise de honte et d'affreux désespoir. Le lendemain, lorsqu'il se leva, Pascal, brisé par l'insomnie, était résolu. Il prit sa douche de chaque jour, il se sentit raffermi et plus sain. Le parti auquel il venait de s'arrêter était de forcer Clotilde à engager sa parole. Quand elle aurait accepté formellement d'épouser Ramon, il lui semblait que cette solution irrévocable le soulagerait, lui interdirait toute folie d'espérance. Ce serait une barrière de plus, infranchissable, mise entre elle et lui. Il se trouverait dès lors armé contre son désir. Et s'il souffrait toujours, ce ne serait que de la souffrance, sans cette crainte horrible de devenir un malhonnête homme, de se relever une nuit pour l'avoir avant l'autre. Ce matin-là, lorsqu'il expliqua à la jeune fille qu'elle ne pouvait tarder davantage, qu'elle devait une réponse décisive au brave garçon qui l'attendait depuis si longtemps. Elle parut d'abord étonnée. Elle le regardait bien en face, dans les yeux, et il avait la force de ne pas se troubler. Il insistait simplement d'un air un peu chagrin, comme s'il était attristé d'avoir à lui dire ces choses. Enfin, elle eut un faible sourire. Elle détourna la tête. « Alors, maître, « tu veux que je te quitte ?» Il ne répondit pas directement. « Ma chérie, je t'assure que ça devient ridicule. Ramon aurait le droit de se fâcher. » Elle était allée ranger des papiers sur son pupitre. Puis, après un silence, « C'est drôle, te voilà avec grand-mère et Martine à présent. Elles me persécutent pour que j'en finisse. Je croyais avoir encore quelques jours. Mais vraiment, si vous me poussez tous les trois... » Et elle n'acheva point. Lui-même ne la força pas à s'expliquer plus nettement. « Alors, demanda-t-il, quand veux-tu que je dise à Ramon de venir ?»« Mais il peut venir quand il voudra. Jamais ses visites ne m'ont contrarié. »« Ne t'en inquiète pas, je le ferai avertir que nous l'attendons une de ces après-midi. » Le surlendemain, la scène recommença. Clotilde n'avait rien fait. Et Pascal, cette fois, se montra violent. Il souffrait trop. Il avait des crises de détresse dès qu'elle n'était plus là, pour le calmer par sa fraîcheur souriante. Et il exigea, avec des mots rudes, qu'elle se conduisît en fille sérieuse, qu'elle ne s'amusât pas davantage d'un homme honorable et qu'il aimait. « Que diable ! Puisque la chose doit se faire, finissons-en ! Je te préviens que je vais envoyer un mot à Ramon et qu'il sera ici demain, à 3 heures. » Elle l'avait écouté, les yeux à terre, muette. Ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir aborder la question de savoir si le mariage était bien résolu. Et il partait de cette idée qu'il y avait là une décision antérieure, absolument prise. Quand il lui vit relever la tête, il trembla, car il avait senti passer un souffle. Il la crut sur le point de dire qu'elle s'était interrogée et qu'elle se refusait à ce mariage. Que serait-il devenu? Qu'aurait-il fait, mon Dieu? Déjà, il était envahi d'une immense joie et d'une épouvante folle. Mais elle le regardait, avec ce sourire discret et attendri qui ne quittait plus ses lèvres, et elle répondit d'un air d'obéissance « Comme il te plaira, maître, fais-lui dire d'être ici demain, à 3 heures. » La nuit fut si abominable pour Pascal qu'il se leva tard, en prétextant que ses migraines l'avaient repris. Il n'éprouvait de soulagement que sous l'eau glacée de la douche. Puis, vers 10 heures, il sortit. Il parla d'aller lui-même chez Ramon. Mais cette sortie avait un autre but. Il connaissait, chez une revendeuse de plaçants, tout un corsage en vieux point d'Alençon, une merveille qui dormait là, dans l'attente d'une folie généreuse d'amant. Et l'idée lui était venue, au milieu de ses tortures de la nuit, d'en faire cadeau à Clotilde, qui en garderait sa robe de noces. Cette idée amère de la parer lui-même, de la faire très belle et toute blanche pour le don de son corps, attendrissait son cœur, épuisé de sacrifices. Elle connaissait le corsage. Elle l'avait admiré un jour avec lui, émerveillé, ne le souhaitant que pour le mettre à Saint-Saturnin, sur les épaules de la Vierge, une antique Vierge de bois adorée des fidèles.